Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante en ce 1er juillet. J'accueille au micro Sébastien, Laetitia, Églantine et Thierry. Mes amis, bonjour.
Bonjour.
Sébastien Demorand, donc tout ce week-end, vous avez décidé de voir rouge. Et une fois de plus encore ce dimanche matin. Pour le coup, je sens que vous allez remplacer les fraises par les tomates.
Ouais.
Vous avez un problème avec ces fruits et légumes?
Non. Je suis pas trop énervé. Enfin, un petit peu quand même. Hein.
Ah.
Allez, un petit peu.
Ah bah oui,
non, je voudrais vous parler d'une salade de tomates qui est connue de tous, mais qui est littéralement maltraité, massacré, humilié à longueur d'année, c'est une catastrophe.
Quoi?
La caprese.
Je sais même pas ce que c'est.
Écoutez, dans les restaurants mauvais italiens, c'est pas
quoi,
bon.
C'est quoi la caprese?
Ça veut dire deux caprices, c'est la petite île au large de Naples.
Voilà.
Non, mais à part ça, il y a quoi dans l'assiette?
Donc caprice, c'est fini.
Et c'est quoi cette salade?
Il y a des capres.
Non, mais regardez, l'idée, c'est que ce que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui, avec un petit peu de soin, que dis-je, un peu d'amour, et deux, trois bons produits, on peut faire en 2 minutes 30 une caprese absolument fabuleuse. Et donc, Thierry, Laetitia, c'est des recettes juste pour vous.
Ah, bien.
J'ai failli être jaloux. Je croyais qu'elle était uniquement pour Laetitia.
Non.
On sait toujours pas ce qu'il y a dedans.
Avez droit. Vous savez pas toujours.
Bah
alors attendez, vous la connaissez tous, cette caprese. C'est celle qu'on retrouve à la carte de n'importe quel troquet de nos jours. Il s'agit bêtement de la tomate mozza. Voilà, c'est ça la caprese. Qu'on vous sert en août comme en décembre avec des tomates
avec
industrielles. La mozza du même tonneau. C'est l'horreur. C'est l'horreur absolue. Alors qu'on sait très bien, n'est-ce pas, Églantine, que ce qui fait la beauté d'une recette italienne, c'est non seulement sa simplicité, mais l'utilisation de très bons produits. Et pour la tomate, en ce moment, ça va.
Ouais,
on va pas
ça va. Mais est-ce qu'on peut trouver vraiment une mozzarella à la hauteur de la mozza italienne en France?
Ça m'est arrivé de faire déguster des mozzarelles fabriquées la veille au soir à 50 km de Rome, le lendemain matin. Bon, ça, on n'a pas chez nous.
Ah ouais. Bon, c'est à 50 bornes de Rome, c'est fichu pour moi.
Des tomates qui ont mûri au soleil de Sicile, on n'en a pas, c'est vrai. Une huile d'olive toscane, c'est vrai, on n'en a pas. Mais on peut quand même se débrouiller sans problème pour parvenir à un résultat extrêmement honorable, voire plus qu'honorable. Regardez, les tomates déjà, on va commencer par les tomates. Alors, je vais vous dire, prenez ce matin, bêtement, ce que vous trouvez au marché. De la rouge de base, de la noire de Crimée, de la rose de Berne, peu m'importe. Ce qui compte, c'est d'abord le vrai goût d'une tomate bien mûre, en pleine saison. Ok ? Alors, la mozza, évidemment, une vraie bonne mozzarella de bufflone, bien tendre, lactique, un petit peu acide comme ça, que vous allez couper grossièrement. Et ça, en effet, ça se trouve assez facilement chez nous désormais. On termine avec une belle huile d'olive bien mûre, une huile d'olive française, hein, pourquoi pas,
sûr,
ce qu'on appelle le fruité
France,
noir, qui est formidable. Et à la fin, le basilic, en effet, frais. Ça, c'est important. Et alors, on le fait comme le font les Italiens. On déchire les feuilles à la main pour ne pas que la lame du couteau vienne noircir les feuilles de basilic. On termine avec un joli voile de fleur de sel. Et la dernière petite touche qui tue, c'est de trouver un excellent origan séché, quelques petites pincées. Voilà. C'est ça la caprese.
Pas du tout de vinaigre
là-dedans. Il n'y a rien d'autre.
Ah non,
rien. Même pas de balsamique.
C'est
Dieu sait que je crache contre ma paroisse.
Naturel.
Olive.
Une fois de plus, tout le plaisir est pour moi.
Merci
Sébastien. Ça va, vous y arriverez, Laetitia.
Oh, mais ça va, je sais déjà la faire.
L'origan, c'est très important dans la recette.
Tiens, à propos, Laetitia, vous avez reçu un courrier.
Oui, alors ça, c'est Marie-France, auditrice du Puy-de-Dôme, qui vous fait la bise, Bernard, d'ailleurs.
Moi aussi, Marie-France.
Grosse bise, même, précise-t-elle. Marie-France nous écoute depuis longtemps et elle s'est décidée à m'écrire pour me demander quel mur peindre dans sa pièce.
Elle a fait un dessin de la pièce.
Oui, voilà, super. Il y a toutes les cotes, mais il y a quand même quelque chose qui cloche, c'est que Marie-France ne m'a donné aucune adresse, pas de téléphone, pas de mail, même pas un nom de famille. Donc c'est quand même difficile de lui répondre.
Vous allez quand même pouvoir lui indiquer par quel mur commencer.
Oui, sauf que moi, j'aurais quand même eu besoin d'une photo. Vous voyez, ça m'aurait aidé, voir comment sont disposés les mêmes.
Donc Marie-France, elle attend un deuxième courrier, si possible, avec vos coordonnées complètes.
Deux, trois choses, quoi savoir de quelle couleur sont les meubles de la cuisine, où se trouve la table, le canapé.
Oui, minimum.
Alors, elle met des points d'interrogation là, sur un mur avec deux fenêtres et sur un grand mur avec une porte.
Bah, peut-être parce que c'est là qu'elle pense mettre de la couleur. Ah. Moi, il me semble, regarder sur le plan, que la cuisine qui est dans le renfoncement, comme ça, mériterait une couleur, ainsi que le mur perpendiculaire. Comme ça, la couleur pourrait venir structurer l'espace repas. Bon, ça, c'est ma proposition. Mais sans photo, je ne suis pas sûre à 100%.
Donc le message est très clair, il est valable pour elle, Marie-France, et pour tous les autres auditeurs. On peut vous écrire, dans la mesure du possible, vous répondez, mais il faut vraiment envoyer des photos et des coordonnées complètes. Par ailleurs, couleurs. Par ailleurs,
c'est vrai qu'on se pose souvent la question des couleurs. Cela dit, où est-ce qu'on la met, la couleur?
Alors les réponses évidentes, c'est derrière un lit, en tête de lit, vous connaissez, ou derrière le mur sur lequel il y a le canapé, parce que la couleur apporte tout de suite un côté chaleureux. Mm-hmm. Et sinon, vous pouvez aussi la mettre dans un couloir ou une montée d'escalier, et là, vous pouvez carrément créer un effet surprise en jouant une couleur forte, un bleu ou même un rouge, un orange. Ce ne sont pas des endroits dans lesquels on s'installe pour faire quelque chose.
On fait que passer.
Donc du coup, c'est vraiment là qu'il faut oser les couleurs fortes.
Moi, j'aime bien.
Moi, j'ai fait un couloir en couleur, voilà. Bleu,
chez
avec des portes orange, regardez.
C'est où ça?
Très joli.
Alors, c'est chez une journaliste de RTL.
Ah,
c'est pas mal.
Super joli.
Moi, je vous mets la photo sur RTL.fr, j'adore.
Et alors, l'escalier lui-même, je ne parle pas de la montée, mais l'escalier, les marches, on peut faire quelque chose aussi?
Oui, alors là, on peut jouer évidemment la couleur sur les murs, mais moi, ce que j'aime bien, c'est souligner les marches.
Plus précisément,
les contre-marches. Si vous peignez les marches, le risque que la peinture s'écaille est très élevé. L'astuce, donc, c'est de peindre les contre-marches et aussi le stylobat.
Ah, alors les contre-marches, je sais ce que c'est, le stylobat, je ne sais pas.
Vous connaissez? Ça veut dire soubassement, moulure. Donc, dans ce cas précis, c'est la moulure, c'est-à-dire la plainte qui suit le mouvement de l'escalier.
Allez, un
dernier conseil pour les chambres, je vous conseille de préférer des couleurs sourdes comme le kaki, le taupe, le gris. Pour bien
des couleurs sourdes, c'est
plus reposant.
Couleurs sourdes, c'est marrant ça. La suite de Maison Jardin Cuisine, Brocante, dans un court instant. On va reparler du Tour de France avec Églantine Lemayé, a trouvé un biais pour attaquer son sujet. Et puis le jasmin.
Le jasmin.
Et ça, c'est absolument délicieux par la grâce de Thierry. À tout de suite. La suite de Maison Jardin Cuisine, Brocante, Églantine Lemayé, à le micro, Églantine.
Oui.
Saga des grandes marques et Brocante, c'est votre spécialité. Et dans votre menu d'aujourd'hui, qu'y a-t-il?
Alors hier, je vous parlais de cyclisme. Le Tour de France revient dans ma chronique ce matin, puisque nous allons redécouvrir une célèbre marque française, une marque dont les petits raffolent, aussi bien pour son logo rigolo que pour sa recette à base de lait écrémé et de fromage.
La vache qui rit.
La vache qui rit, qui fête ses 97 ans cette année.
Amen,
et je peux vous dire qu'en 97 ans, il y en a eu des produits dérivés qui se retrouvent aujourd'hui pour notre plus grand bonheur sur les étals de nos brocantes.
Je sens poindre la séquence historique.
Vous avez bien raison, Laetitia. Pour commencer, avez-vous une idée de l'origine du nom vache qui rit? Quand le fromager Léon Bell dépose en 1921 la marque Vache qui rit, son inspiration est plutôt à chercher du côté d'un camarade de régiment qu'il a connu pendant la Grande Guerre. Et ce camarade n'est autre que Benjamin Rabier.
C'est le célèbre
illustrateur animalier.
Plein d'humour,
qui s'était amusé donc à dessiner une vache rouge et riante sur tous les camions militaires du service de ravitaillement en viande. Elle s'appelait la Vache qui rit, W-A-C-H-K-Y-R-I-E.
Ça, c'est le dessin original.
Exactement, référence moqueuse aux Valkyries, ces vierges guerrières de la mythologie nordique que les ennemis allemands de l'époque vénéraient. Et après la guerre, Léon Bell demande à son camarade de reprendre cette idée, et c'est comme ça que naît à la fois le nom et le célèbre logo qui a très peu changé en une centaine d'années.
Mais alors, le Tour de France, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans?
Alors, j'y viens. Léon Bell était surtout un communicant avant-gardiste. C'est un des premiers industriels à avoir créé un département de publicité dans son entreprise. Mm-hmm. Dans les années 30 déjà, certains buvards, protège-caillés, porte-mine des écoliers arboraient fièrement le portrait de la vache qui rit.
C'est pas vrai.
Et à partir de 1933, Léon Bell a la bonne idée de sponsoriser le Tour de France.
Ah, génial.
Et alors là, affiches, assiettes, boîtes, calendriers, cartes postales, casquettes, collecteurs d'images, jeux, pendules, plaques émaillées, bref, l'univers de la vache qui rit s'est tout d'un coup surmultiplié.
De la vache qui rit dans mon salon.
Moi j'aime beaucoup aussi. Les plâtres publicitaires des années 30, ça peut monter à 2 000-3 000 euros. C'est rien comparé à certaines tôles lithographiées assez rares, anciennes, qui se négocient entre 8 000 et 10 000 euros. Ça fait très cher. Mais rassurez-vous, des plaques émaillées un peu récentes des années 50-60, ça se marchande beaucoup moins cher, heureusement. Et puis il y a des tas de produits dérivés que je vous citais tout à l'heure qui sont franchement à la portée de toutes les bourses.
Des boîtes de vache qui rit, moi j'en ai une des années 30.
Ah bon?
Sous cloche à la maison, elle est merveilleuse. Et ça, ça ne valait rien.
Et le fromage est toujours dedans?
Le fromage,
il est prêt à consommer.
C'est pour ça qu'il a mis sous cloche.
Avez-vous un dernier conseil?
Oui, si vous êtes de passage dans le Jura, à Lons-le-Saunier exactement, je vous conseille d'aller visiter la maison de la vache qui rit. C'est un superbe musée à la gloire de la marque. Il vient tout juste de se refaire une beauté et de rouvrir ses portes.
Il y a carrément un musée.
Mais il y a un musée, ça va.
Eh oui, on rigole pas.
Bien sûr qu'il y a un musée.
Évidemment, je vous mets l'adresse du musée sur le site d'RTL.
Vous savez, les vieilleries dans les maisons, il faut toujours faire attention. Vous avez vu il y a 3 semaines ce vase chinois qui a été récupéré après des années, qui prenait la poussière.
Il
a
vendu
des millions d'euros chez Sotheby's. Et le proprio disait, mais qu'est-ce qu'il est moche ce vase, il a failli bazarder. Ah, c'était une rareté absolue.
Ça arriverait, ça, Bernard.
Ben non, évidemment. Thierry Denis, vous avez apporté deux bouquets de petites étoiles blanches.
Mais ce sont des fleurettes
parfumées. Je sens que vous voulez encore séduire les filles avec ça.
C'est du jasmin officinal, Bernard, que l'on appelle aussi jasmin d'été ou jasmin des poètes. Alors, Laetitia Eglantine, je vous offre ces bouquets, mais en tout bien, tout honneur. Même si dans nombre de civilisations, comme le Népal ou le Tadjikistan, un bouquet de fleurettes comme celui-ci, de jasmin, est clairement un message d'amour que l'on donne qu'aux jolies filles.
Moi, je suis très touchée.
Thierry, on est flattante.
Bon, j'ai le nez dedans, j'adore cette odeur.
Nous, on est le lait.
Bon, alors, on va passer, parce que je vous vois rougir. Nous allons parler maintenant botanique, pour détourner la conversation. Savez-vous déjà que le jasmin est un cousin de l'olivier? Et oui, entre l'olivier à l'huile délicieuse et le jasmin au doux parfum, il n'y a que quelques gènes de différence. Truc intéressant aussi, il n'y a pas qu'un jasmin, mais au moins 200 espèces dans le monde entier, des tropiques à l'Océanie.
Mais alors, lequel est utilisé pour les parfumeurs ?
Alors, c'est surtout le jasmin grandiflorum, qui ressemble beaucoup au jasmin officinal que je vous ai apporté. Vous savez, on le cultive à Grasse depuis le XVIIe siècle. Il a des fleurs plus grandes, qu'on récolte en été juste avant l'aube. Alors, pour obtenir 1 kg d'essence absolue de jasmin, il faut recueillir pas moins de 7 millions de fleurs. Autant dire que le vrai jasmin naturel est cher, réservé aux parfums de luxe.
Et dites-moi, votre jasmin officinal, là, est-ce qu'il sent aussi bon que le jasmin des parfumeurs?
Oui, tout à fait. Il est facile à cultiver en plus. Bon, c'est une robuste plante grimpante qui va pousser à merveille chez vous, palissée sur un mur bien éclairé, mais sans soleil brûlant. La croissance est rapide. Dernier atout, il est beaucoup plus rustique qu'on ne le lit partout. Ma mère en avait quand j'étais enfant dans le Morvan. Il a vécu plus de 40 ans.
La mère Denis, donc.
Exactement. 40 ans d'hiver aussi. Depuis, j'en ai replanté un et il se porte comme un charme. On en trouve des plants pour moins de 20 euros. Bon, il ne faut pas s'en priver pour en faire plein de bouquets.
Moi, j'ai un jasmin qui est mort cet hiver, Thierry. Donc, du coup, ça m'intéresse d'en acheter, là. Question, est-ce qu'il n'est pas trop encombrant au fil du temps?
Alors, celui qui est mort chez vous n'était pas rustique. C'est un autre jasmin.
Peut-être,
le mien, jasmin officinal, il fait une dizaine de mètres de large sur la façade d'une maison. Mais il est facile à maîtriser à coups de sécateur, si vous le souhaitez. Plus petit. Même Églantine pourra en apprivoiser un sur son balcon.
Eh bien, même moi, parce que figurez-vous que je le fais. Et j'en ai un magnifique.
Maintenant, elle va avoir deux jasmins. C'est un vrai bonheur. D'où vient le nom jasmin?
Alors, peut-être du persan Yasamine. Bon, je ne suis pas très sûr de mon accent persan. Voilà. Yasamine, qui aurait donné le prénom arabe Yasmina ou Yasmine. Ce qui est certain dans l'histoire, c'est que Cléopâtre est allée à la rencontre de l'empereur Marc-Antoine dans un navire aux voiles enduites d'essence de jasmin et ce fut une merveilleuse histoire d'amour et la face du monde en a été changée. Alors aujourd'hui en France, les noces de jasmin fêtent, il ne faut pas l'oublier, les 66 ans de mariage.
Et ben on n'y arrivera jamais, c'est raté d'avance. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos sur cette plante délicieuse qu'est le jasmin.
Et merci pour le bouquet.
Ah les filles, je sens que vous allez finir dans le Morvan à faire de la beauté. Bonne semaine mes amis, samedi prochain.
À suivre Bernard.
Eh bien le Routard, le Perrault et la Quintin, ils sont là, tous les trois, cachés derrière ceci.